Mais le Havre, les environs du Havre, attiraient Isidore comme les feux d'un phare. Les rois de France portent des secrets qui règlent souvent le sort des villes. Paroles obscures, et tout à coup, pour Beautrelet, rayonnantes de clarté. N'était-ce pas l'exacte déclaration des motifs qui avaient décidé François Ier à créer une ville à cet endroit? Et le sort du Havre de Grâce n'était-il pas lié au secret même de l'aiguille? C'est cela, c'est cela, balbutia Beautrelet avec ivresse. Le vieil estuaire normand, l'un des points essentiels, l'un des noyaux primitifs autour desquels s'est formée la nationalité française, le vieil estuaire se complète par ces deux forces, l'une en plein ciel, vivante, connue, port nouveau qui commande l'océan et qui s'ouvre sur le monde, l'autre ténébreuse, ignorée et d'autant plus inquiétante qu'elle est invisible et impalpable. Tout un côté de l'histoire de France et de la maison royale s'explique par l'aiguille, de même que toute l'histoire de Lupin. Les mêmes ressources d'énergie et de pouvoir alimentent et renouvellent la fortune des rois et celle de l'aventurier. De bourgade en bourgade, du fleuve à la mer, Beautrelet fureta le nez au vent, l'oreille aux écoutes, et tâchant d'arracher aux choses mêmes leur signification profonde. Était-ce ce coteau qu'il fallait interroger? Cette forêt? Les maisons de ce village? Était-ce parmi les paroles insignifiantes de ce paysan qu'il récolterait le petit mot révélateur? Un matin, il déjeunait dans une auberge, en vue d'Honfleur, antique cité de l'estuaire. En face de lui, mangeait un de ces maquignons normands, rouges et lourds, qui font les foires de la région, le fouet à la main, une longue blouse sur le dos. Au bout d'un instant, il parut à Beautrelet que cet homme le regardait avec une certaine attention, comme s'il le connaissait, ou du moins, comme s'il cherchait à le reconnaître. « Bah, je me trompe, je n'ai jamais vu ce marchand de chevaux, et il ne m'a jamais vu. » En effet, l'homme sembla ne plus s'occuper de lui. Il alluma sa pipe, demanda du café et du cognac, fuma et but. Son repas achevé, Beautrelet paya et se leva. Un groupe d'individus entrant au moment où il allait sortir, il dut rester debout quelques secondes auprès de la table où le maquignon était assis. Et il l'entendit qui disait à voix basse « Bonjour, monsieur Beautrelet. » Isidore n'hésita pas. Il prit place auprès de l'homme et lui dit « Oui, c'est moi. Mais vous, qui êtes-vous? Comment m'avez-vous reconnu ?»«
Pas difficile. Et pourtant, je n'ai jamais vu que votre portrait dans les journaux. Mais vous êtes si mal... Comment dites-vous en français? Si mal grimé. »
Il avait un accent étranger très net. Et Beautrelet crut discerner, en l'examinant, que lui aussi... Il avait un masque qui altérait sa physionomie.
« Qui êtes-vous ? »
L'étranger sourit.
« Vous ne me reconnaissez pas ? » ?»«
Non, je ne vous ai jamais vu. » »«
Pas plus que moi. Mais rappelez-vous, moi aussi on publie mon portrait dans les journaux, et souvent. Eh bien, ça y est ? » ?»«
Non. » »«
Herlock Sholmes. »
La rencontre était originale. Elle était significative aussi. Tout de suite, le jeune homme en saisit la portée. Après un échange de compliments, il dit à Sholmes
« Je suppose que si vous êtes ici, c'est à cause de lui. »
« Oui. »
« Alors, vous croyez que nous avons des chances de ce côté ?»«
J'en suis sûr. »
La joie que Beautrelet ressentit à constater que l'opinion de Sholmes coïncidait avec la sienne ne fut pas sans mélange. Si l'Anglais arrivait au but, c'était la victoire partagée, et qui sait même s'il n'arriverait pas avant lui.
« Vous avez des preuves, des indices ?»«
Oh, non, n'ayez pas peur. Je ne marche pas sur vos brisées. Vous, c'est le document, la brochure. » Des choses qui ne m'inspirent pas grande confiance.
Et vous?
Moi, ce n'est pas cela. Est-il indiscret? Nullement. Veux-vous rappeler l'histoire du diadème, l'histoire du duc de Charmeras?
Oui.
Vous n'avez pas oublié Victoire, la vieille nourrice de Lupin, celle que mon bon ami Ganimard a laissée échapper dans une fausse voiture cellulaire?
Non.
J'ai retrouvé la piste de Victoire. Elle habite une ferme non loin de la route nationale numéro 25. C'est la route du Havre à Lille. Par Victoire, j'irai facilement jusqu'à Lupin. Ce sera long. Qu'importe. J'ai lâché toutes mes affaires. Il n'y a plus que celle-là qui compte. Entre Lupin et moi, c'est une lutte. Une lutte à mort.
Il prononça ces mots avec une sorte de sauvagerie où l'on sentait toute la rancœur des humiliations subies, toute une haine féroce contre le grand ennemi qu'il avait joué si cruellement.
Allez-vous-en, on nous regarde, c'est dangereux. Mais rappelez-vous mes paroles. Le jour où Lupin et moi nous serons l'un en face de l'autre, ce sera tragique.
Beautrelet quitta Sholmès tout à fait rassuré. Il n'y avait pas à craindre que l'Anglais le gagnât de vitesse.
Et quelle preuve encore lui apportait le hasard de cette entrevue? La route du Havre à Lille passe par Dieppe. C'est la grande route côtière du pays de Caux. La route maritime qui commande les falaises de la Manche. Et c'est dans une ferme voisine de cette route que Victoire était installée. Victoire, c'est-à-dire Lupin, puisque l'un n'allait pas sans l'autre. Le maître sans la servante, toujours aveuglément dévoué.
« Je brûle !»
se répétait le jeune homme.
« Dès que les circonstances m'apportent un élément nouveau d'information, c'est pour confirmer ma supposition. D'un côté, certitude absolue des bords de la Seine. De l'autre, certitude de la route nationale. Les deux voies de communication se rejoignent au Havre, la ville de François Ier, la ville du secret. Les limites se resserrent. Le pays de Caux n'est pas grand, et ce n'est encore que la partie ouest du pays que je dois fouiller. »
Il se remit à l'œuvre avec acharnement.
« Ce que Lupin a trouvé, il n'y a aucune raison pour que je ne le trouve pas, »
ne cessait-il de répéter en lui-même. Certes, Lupin devait avoir sur lui quelques gros avantages. Peut-être la connaissance approfondie de la région, des données précises sur les légendes locales. Moins que cela, un souvenir, un avantage précieux, puisque lui, Beautrelet, ne savait rien, et qu'il ignorait totalement ce pays, l'ayant parcouru pour la première fois lors du cambriolage d'Embrumésie, et rapidement, sans s'y attarder.
Mais qu'importe. Dût-il consacrer 10 ans de sa vie à cette enquête, il la mènerait à bout. Lupin était là, il le voyait, il le devinait. Il l'attendait à ce détour de route, à la lisière de ce bois, au sortir de ce village. Et chaque fois déçu, il semblait qu'il trouvât en chaque déception une raison plus forte de s'obstiner encore. Souvent, il se jetait sur le talus de la route et s'enfonçait éperdument dans l'examen du document tel qu'il emportait toujours sur lui la copie, c'est-à-dire avec la substitution des voyelles aux chiffres. E.A.A.E.E.A. Deuxième ligne. A.A.E.E.E. Troisième ligne. .OU.E.O.E.E. Quatrième ligne. D.D.F. avec barre au-dessus, rectangle et coin, 19F, croix, 44, triangle avec point, 357, triangle avec point. Cinquième ligne, AI point, UI point point E, point point EU point E.
Souvent aussi, selon son habitude, il se couchait à plat ventre dans l'herbe haute et songeait des heures. Il avait le temps. L'avenir lui appartenait. Avec une patience admirable, il allait de la Seine à la mer, et de la mer à la Seine, s'éloignant par degrés, revenant sur ses pas, et n'abandonnant le terrain que lorsqu'il n'y avait plus, théoriquement,
aucune chance d'y puiser le moindre renseignement. Il étudia, il scruta Montivilliers, Saint-Romain, Octeville et Gonneville, et Criquetot. Il frappait le soir chez les paysans et leur demandait le gîte. Après dîner, on fumait ensemble et l'on devisait. Et il leur faisait raconter des histoires qu'il se racontait aux longues veillées d'hiver. Et toujours cette question sournoise. « Et l'aiguille ? La légende de l'aiguille creuse, vous ne la savez pas ?»«
Ma foi, non, je ne vois pas ça. » »«
Cherchez bien, un conte de vieille bonne femme, quelque chose où il s'agit d'une aiguille. Une aiguille enchantée, peut-être, que sais-je ?»
Rien. Aucune légende, aucun souvenir. Et le lendemain, il repartait avec allégresse. Un jour, il passa par le joli village de Saint-Jouin, qui domine la mer, et descend parmi le chaos de rocs qui s'est éboulé de la falaise. Puis il remonta sur le plateau et s'en alla vers la valeuse de Bruneval, vers le cap d'Antifère, vers la petite crique de Belle-Plage. Il marchait gaiement et légèrement, un peu là, mais si heureux de vivre. Si heureux même qu'il oubliait Lupin et le mystère de l'aiguille creuse, et Victoire et Sholmès, et qu'il s'intéressait au spectacle des choses, au ciel bleu, à la grande mer d'émeraude, toute éblouissante de soleil. Des talus rectilignes, des restes de murs en briques, où il crut reconnaître les vestiges d'un camp romain, l'intriguèrent. Puis il aperçut une espèce de petit castel bâti à l'imitation d'un fort ancien, avec tourelles lézardées, hautes fenêtres gothiques, et qui était situé sur un promontoire déchiqueté, montueux, rocailleux et presque détaché de la falaise. Une grille, flanquée de garde-fous et de broussailles de fer, en défendait les trois passages. Non sans peine, Beautrelet réussit à le franchir. Au-dessus de la porte ogivale, que fermait une vieille serrure rouillée, il lut ces mots. Fort de Fréfossé. Il n'essaya pas d'entrer, et tournant à droite, il aborda, après avoir descendu une petite pente, un sentier qui courait sur une arête de terre munie d'une rampe en bois. Tout au bout, il y avait une grotte de proportions exiguës, formant comme une guérite à la pointe du roc où elle était creusée, un roc abrupt tombant dans la mer. On pouvait tout juste tenir debout au centre de la grotte. Des multitudes d'inscriptions s'entrecroisaient sur ses murs. Un trou presque carré, percé à même la pierre, s'ouvrait en lucarne du côté de la terre, exactement face au fort de Fréfossé, dont on apercevait à 30 ou 40 mètres la couronne. Beautrelet jeta son sac et s'assit. La journée avait été lourde et fatigante. Il s'endormit un instant.